NPR News.
France Inter, le 18-20. Fabienne Sintès.
Un jour dans le monde, c'est un jour au Portugal ce soir.
Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas.
Ça fait rire notre invité d'entendre ce moment d'archives le 25 avril 1974, juste après donc que les forces armées aient réussi à occuper les locaux de la radio-télévision portugaise. Bonsoir Ana Navarro Pedro.
Bonsoir, bonne nuit.
Vous êtes correspondante à Paris de l'hebdomadaire portugais Viçao. Qu'est-ce qu'ils savent les jeunes portugais aujourd'hui de ce qu'on vient d'entendre là? Moi je vous ai vu réagir, on sent bien que ça parle aussi à votre vie, à votre histoire. Mais qu'est-ce qu'on sait de cette dictature, de sa puissance, de sa violence? Qu'est-ce qu'on transmet au Portugal?
Je pense qu'on essaie de transmettre, il y a des programmes d'école, évidemment, il y a eu des feuilletons, des séries sur ce temps-là au Portugal. Il n'en reste pas moins que les jeunes, souvent, au sein même des familles, disent « mais je ne veux pas connaître ce temps-là, je ne veux pas savoir ». J'ai entendu dire une fois Tiago Rodrigues, plus jeune, le grand metteur en scène, maintenant directeur du Festival d'Avignon, qui disait « mais vous savez, ce temps-là, pour moi, est aussi exotique que les Antipodes, que l'Australie ». Donc, c'est un peu cette réaction-là, parce que c'était peut-être parce que c'était un pays pauvre, parce que c'était un pays en retard économique, en retard sociétal, en retard social aussi.
Mais ça veut dire qu'on sait même pas, enfin qu'on ne réalise plus que justement chaque avancée au Portugal, que ce soit les mouvements féministes, la libération de la femme, tout, mais et pas seulement vraiment libération sexuelle, etc., école, santé. Tout ça vient de 1974. Ça veut dire qu'on l'a oublié, en fait.
Oui, mais maintenant, les points de repère sont européens, aux mondiaux, aux globaux, mais pas par rapport au passé. Mais hier, cette nuit, j'étais très surprise parce qu'il y a eu plein de petites vidéos sur les réseaux sociaux de ce qui se passait à Lisbonne et dans le Portugal. Et ce que j'étais très, très surprise de voir beaucoup, beaucoup de jeunes qui étaient dans la rue et qui chantaient à plein poumon la chanson qui a été interdite et qui a été le déclencheur du mouvement.
La chanson de minuit, le fado de minuit. Ouais.
Et ils connaissaient cette chanson par cœur, elle passait un peu partout.
Mais donc chantait. Du coup c'est du folklore en fait
Non, parce que c'est une chanson engagée, parce que c'est une chanson qu'on n'écoute pas très souvent au Portugal, il faut bien le dire. Je crois qu'elle est devenue un symbole, plus que du folklore.
Parce que la raison évidemment pour laquelle je vous pose cette question, c'est que c'est le même Portugal qui célèbre la même année les 50 ans de cette révolution-là, donc ce moment de bascule qui a été fondamental, mais aussi ce même Portugal qui, depuis cette année, depuis le mois de mars, doit composer avec une législature faite désormais d'extrême droite, d'un gouvernement centre-droit et d'une extrême droite qui est arrivée. Et on se dit finalement que cette concomitance, qu'est-ce qu'elle nous dit? Est-ce qu'elle nous dit on a la mémoire courte? Ou est-ce qu'elle nous dit c'était un autre temps? Voilà, le Portugal d'aujourd'hui, c'est celui-là aussi.
Tous les peuples ont la mémoire courte, hélas. Elle nous dit aussi que le Portugal, pas plus qu'un autre pays, n'échappe pas au mécontentement des citoyens vis-à-vis de ceux qui les gouvernent. Un sondage sorti aujourd'hui même au Portugal le prouve. 51% des personnes sondées disent qu'ils sont insatisfaits du fonctionnement de la démocratie au Portugal. Et 67% disent même qu'ils croient que les dirigeants politiques portugais ne se soucient pas de la vie des citoyens et de leur bien-être. Ce n'est pas nouveau. On avait déjà eu ça auparavant, pendant la grande période d'austérité au Portugal. Et c'est l'extrême droite que vous venez de référer à... fait une telle percée cette année même de la chute de la dictature, c'est aussi peut-être à cause de ça.
Alors mais justement, c'est la soudaineté de la percée qui reste étonnante, parce qu'on a toujours eu le sentiment justement, parce que autour, tout ce que vous décriviez existait autour, et notamment chez nous en France, chez vos voisins immédiats, les Espagnols avec Vox, et on se disait toujours « Ah mais le Portugal, lui, est immunisé contre ça ». Moi je voulais savoir pourquoi est-ce qu'on pensait que le Portugal était immunisé? Est-ce que c'était une espèce de fantasme qu'on se faisait d'une espèce de modèle portugais qui, pour vous, à l'intérieur, était loin d'être un modèle?
Alors, c'était un fantasme qui n'était pas que français ou européen, c'était un fantasme partagé aussi par des analystes portugais. Moi, je me suis toujours inscrite contre cette idée, parce que je ne travaille pas souvent sur le Portugal, puisque je suis en poste à Paris, mais quand j'allais dans le pays, je pouvais parler très librement avec des gens dans un pays, dans l'intérieur du pays, qui me parlaient en toute confiance. Et je voyais bien qu'il y avait cette frontière frange qui se développait, qui grandissait au Portugal, d'un vote protestataire, d'un vote plutôt prêt à aller vers des chemins populistes et à essayer des mouvements peut-être plus rudes, plus rugueux, si vous voulez, pour ne pas dire d'extrême droite. Et j'ai toujours dit que le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'offres, il y avait une demande électorale. Il n'y avait pas d'offres parce que ce segment ultra-conservateur, ultra-libéral était occupé au Portugal. Il l'est toujours par un parti qui est un parti de gouvernement, petit certes, mais de gouvernement, le CDS, mais qui est un parti qui, par son appartenance, par ses statuts, est un parti qui représente plutôt les intérêts de la très haute bourgeoisie portugaise, de certains milliers
Donc il manquait la petite classe, il manquait les jeunes, en fait, et il y a cette... le Chega, c'est comme ça que s'appelle l'extrême droite.
Ça veut dire basta.
Ça veut dire ça suffit, ouais, a pu se rentrer dans cet interstice-là, en fait.
Il a complètement entré dans cet interstice, et je pense que son leader, André Ventura, qui est un type extrêmement intelligent, contrairement à ce que l'on pense, et qui avait une carrière universitaire devant lui à 30 ans, magnifique, en droit public. Et bien, il a tout lâché pour aller être commentateur
du Benfica. C'est génial. Enfin, voilà. C'est incroyable.
Commentateur de sportif et un peu après, commentateur de cas de crime.
Ouais.
Et il lui manquait la lumière, évidemment. Et je crois que c'est sur ces segments-là qu'il a compris qu'il y avait cette niche dont j'ai parlé tout à l'heure, lui aussi.
Et alors, puisqu'on est dans les 50 ans, justement, ce qui est intéressant, quand on regarde les voisins pas si loin d'Italie, de Giorgia Meloni, par exemple, on voit bien que cette extrême droite-là, elle est capable de se réclamer du fascisme et même d'une forme d'héritage de Mussolini. Pas du tout chez vous, en fait. Votre extrême droite à vous et votre André Ventura, effectivement, ne se réclame pas un instant de Salazar et consorts, jamais.
Non, parce que s'il existe une petite nostalgie au Portugal du temps de Salazar, bon, elle est très, c'est toujours la petite, petit pourcentage dans tous les pays d'adeptes d'idéologies fascisantes. Non, mais par contre, il sait y faire allusion. Par exemple, il avait adopté des mots d'ordre, si vous voulez, ou des devises qui Dieu, patrie, famille, travail. Alors là, Salazar et Pétain ensemble, c'est magnifique. C'est pour faire peut-être plaisir en France, sait-on jamais. Mais effectivement, il peut faire allusion à cela, mais il est plutôt ouvert vers le monde contemporain, mais souverainiste, axé sur... Mais je pense d'une façon opportuniste, parce qu'il y a beaucoup d'opportunisme chez André Ventura, il sait déceler très intelligemment le mouvement, le vent chez l'électorat, et il sait s'y adapter. Et je pense qu'il y a aussi chez lui, donc, il a bien compris que ces thèses xénophobes anti-immigration ne prenaient pas, du moins jusqu'à présent. C'est pas sûr que ça continue comme ça. Mais jusqu'à présent ne prenaient pas. Eh bien, il s'en est pris très violemment à la minorité ethnique gitane au Portugal. Et ça lui a donné quelques votes.
Si on essaye de faire une espèce de comparaison, on adore jouer à ce jeu-là, Ana Navarro Pedro, peut-être qu'on se trompe, mais on le voit bien, commentateur de télé, on parle du foot, on parle de crime, donc on voit tout de suite avec une casquette qui ressemblerait plutôt à celle de Trump. Mais quand je vous écoute parler, j'entends bien quand même des relents qui ressemblent un peu plus à quelque chose entre le Rassemblement National et Reconquête chez nous. Donc en fait, où est-ce qu'on le met ? Est-ce qu'on
peut le mettre dans une case ? Il est proche de Marine Le Pen, il est proche très proche du Rassemblement National. D'ailleurs, il aura maintenant des députés, eurodéputés sûrement aux européennes. Et il a déjà organisé avec Marine Le Pen l'entrée de ses eurodéputés dans le groupe qui a été créé par Marine Le Pen au Parlement européen et groupe identitaire.
Vous nous avez expliqué, Ana Navarro Pedro, que donc les jeunes, les régions qui ont été traversées par la crise, pour lesquelles l'austérité, la période à partir de 2011 a été extrêmement brutale, donc on a entendu ça. Les abstentionnistes aussi, ceux qu'on ne voyait pas dans les élections, est-ce que ça veut dire que désormais ils sont vraiment là pour rester ? Est-ce qu'on peut remettre le dentifrice dans le tube ou c'est fini ? Au Portugal, désormais,
il y a ce groupe.
Ils vont
rester un petit moment. Après, s'ils sont appelés à gouverner, ils seront jugés en fonction de ce qu'ils font. Une chose, c'est promettre des choses.
S'ils sont appelés à gouverner, vous dites, ça veut dire que vous êtes capable de le projeter déjà.
Écoutez, ces élections européennes, très rapidement, les élections de mars ont donné deux grands blocs, Parti socialiste et droite conservatrice traditionnelle, qui a que deux sièges d'avance. La droite a formé un gouvernement sans alliance avec Chega, qui a 50 députés sur 220.
Ouais, un million de voix.
130. Eh bien, la droite a dit non, c'est non. Pas d'alliance avec eux. Mais du résultat de ces élections dépend la survie de ce gouvernement. Et d'autres caciques du parti de droite disent c'est une erreur stratégique de ne pas faire alliance avec l'extrême droite. Donc, en juin, je pourrais mieux vous répondre, mais ce n'est pas exclu.
Donc, vous ne croyez pas tellement au non, c'est non, à ce fameux cordon sanitaire qui, pour l'instant, existe au Portugal.
Il existe bien de la part de ce Premier ministre, mais il est contesté au sein de son parti, donc il peut sauter.
Si vous comparez avec vos voisins, avec les voisins de Vox, par exemple, là aussi, est-ce que vous avez le sentiment d'une émergence? Parce qu'au fond, les deux pays se ressemblent aussi à bien des égards sur la fin de leur dictature, sur le début de leur démocratie. Est-ce qu'il y a des porosités ou pas du tout?
Il y a une certaine porosité, mais qui a ses limites, parce qu'en fait, le cas espagnol est un peu différent. Le franquisme n'a jamais disparu d'Espagne. Tandis qu'au Portugal, le salazarisme, quand même, malgré cette petite frange dont je parlais tout à l'heure, est bien mort et enterré chez nous. Faut dire aussi que le franquisme en Espagne a permis quand même un certain développement économique du pays, et le salazarisme, nous a maintenu dans un retard immense. Donc, il y a des différences.
Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait peu de chances pour qu'on remette les choses dans le dentifrice, dans son tube, enfin, et que ce mouvement d'extrême droite revienne en arrière. Comment vous regardez justement les élections européennes? Est-ce que ça veut dire aujourd'hui, nous c'est marrant parce qu'on posera la question au téléphone sonne dans un instant, on se demande si on vote Europe ou si on vote France, évidemment, dans ces élections. Au regard de ça et de cette montée-là, au Portugal, est-ce qu'on vote Portugal à ces élections européennes? Est-ce qu'on vote Europe? Vous êtes un pays particulièrement européen, probablement plus que nous.
Beaucoup plus que vous. Nous sommes le pays au sein de l'Union européenne qui admire le plus le Parlement européen, qui croit le plus que Bruxelles, que le Parlement, surtout les parlements europarlementaires, ont un impact, leur politique ont un impact direct sur la vie des citoyens chez nous. Ce que vous ne croyez pas du tout en France, vous êtes 17%, je crois, au 27 à le penser. Et en règle générale, jusqu'à présent, les Portugais votaient pour les enjeux qui se dessinaient à Bruxelles, à Strasbourg, en fonction des rapports de force issus des élections européennes. Cette fois-ci, il y a la question de la survie du gouvernement. C'est un enjeu important. Je ne sais pas, on croit que quand même l'électorat de droite se mobilise plus que l'électorat de l'extrême droite. Mais tout est en suspens, tout est en ouvert. Mais on s'inquiète et on s'intéresse surtout aux enjeux politiques européens quand même, malgré l'enjeu national.
Quand même, et donc visiblement plus que nous. Est-ce que c'est lui, cet homme-là, celui pour l'instant qui amène Chega là où il est, qui sera celui qui poursuivra cette route, ou est-ce que c'est un homme intermédiaire au fond pour un mouvement d'extrême droite qui est plus important?
Ventura?
Oui, ou... Ventura.
Chez nous, c'est lui, évidemment. Entre sa personnalité, sa gouaille, et je dis maintien.
Mais l'idée, justement, c'est est-ce qu'il est tout seul? Est-ce que, au fond, sans Ventura, ça n'existe pas? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière?
Il a su fédérer des gens autour de lui, notamment sa tête liste pour les Européennes. C'est un ancien ambassadeur du Portugal. Quelqu'un de rompu, qui a été à Pékin, qui a été dans les Balkans, qui a été à Londres.
C'est le sens de ma question. Il n'y a pas que du venturisme, en fait.
Non.
Voilà. Pas que du venturisme.
Il a bien appris la leçon de Marine Le Pen, d'ailleurs.
Voilà. Ah bah, pour ces raisons, vous pensez?
Peut-être.
Bah, écoutez, à suivre, en tout cas, à la fois pour les élections européennes, mais aussi au-delà. On vous a entendu, Ana Navarro Pedro, vous êtes correspondante à Paris de l'hebdomadaire portugais. Comment je l'ai prononcé, très mal?
Visao, mais pas Visao. Que. Il y en a d'autres aussi.
Mais pas que. Ça vous donnera l'occasion de revenir. Merci vraiment beaucoup.